Avant de retrouver, comme un jeudi sur deux, le rendez-vous de la médiatrice Emmanuelle Davier, avec aujourd'hui la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les combats de Gisèle Halimi comptent-ils encore Qu'est-ce que cette femme, cette grande avocate, a encore à nous transmettre aujourd'hui? Pour en parler, notre invité est grand reporter au Monde, prix Albert Londres, dont elle a ensuite présidé le jury de ce prix pendant 10 ans. Aujourd'hui, toujours membre, mais plus présidente, Annick Cojan est avec nous pour son livre paru chez Grasset, Une farouche liberté, un livre entretien avec l'avocate féministe Gisèle Halimi, décédée le 28 juillet dernier. Bonjour à vous, Annick Cojan.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous pour prendre le relais aussi de ma parole un peu effarouchée, visiblement. Quelle liberté avez-vous envie, vous, Annick Cojan, de défendre en ce moment?
Oh, il y a beaucoup de libertés que j'ai envie de défendre, mais je dirais évidemment en tant que journaliste, puisqu'il y a plein de débats en ce moment et que beaucoup d'émotions, de manifestations et de cris indignés, j'ai envie de défendre la liberté d'expression, la liberté de penser. Voilà. Non pas que je crois qu'elle soit à ce point en grand danger, danger de mort, sûrement pas, mais enfin c'est vrai qu'il y a des signaux qui sont inquiétants et qui méritent qu'on les dénonce, qu'on s'émeuve et qu'on fasse changer les choses, en tout cas qu'on montre qu'on est vigilant et que dans cette période difficile, angoissante sans doute pour beaucoup de gens, mortifère même, on a subi à différentes reprises, il y a tout ce danger sanitaire, évidemment, qui est évidemment inquiétant pour nous, pour nos proches, etc. La mort rôde, oui, apportée par ce virus. On a subi les attaques terroristes qui sont très traumatisantes et parfaitement inquiétantes. Effectivement, le danger n'est absolument pas levé. Le danger rôde. La France est dans un état d'alerte. Et puis on voit ce qui se passe à l'étranger. Enfin bon, à la fois les guerres, les prises d'otages, la situation en Amérique qui a souvent indiqué un petit peu en avance ce que nous pourrions subir à notre tour, et cette confiscation, en tout cas cette volonté de confiscation du pouvoir par Donald Trump, etc. Enfin, on voit que la démocratie qui paraissait si évidente, il y avait un exemple quand même devant nous qui était l'Amérique, là aussi vacille d'une certaine façon. Oui, tout ça nous met dans un climat qui doit nous alerter. Et puis voilà que coup sur coup, il y a des projets de loi, discussions, Assemblée nationale, je ne vais pas vous refaire le coup de l'article 24 dont on a tellement parlé dans tous les journaux, mais tout de même, volonté de, non pas de museler, mais on va dire d'encadrer davantage la presse ou les différents médias, sous prétexte de protéger les policiers, on peut le comprendre. Mais en tout cas, il y a un faisceau d'initiatives et de discours malheureux, je veux dire maladroits, on pourrait utiliser des termes plus forts, qui sont désolants. Voilà. Alors j'ai envie, oui, de défendre cette liberté d'expression pour le principe, parce que c'est aussi mon métier, et puis liberté de penser, voilà. Et c'est, au fond, ça nous ramène à Gisèle Halimi, la farouche liberté, mais c'est vrai que c'est ça qui l'a caractérisée.
Ouais. Elle pense, c'est intéressant, parce que justement, elle parle aussi beaucoup, et on retrouve dans ce livre que vous avez pensé et coécrit ensemble, cette idée des droits qui ne sont jamais totalement acquis, non, ou conquis. Il faut toujours, non, se méfier de ces conquêtes, ça peut être détricoté à un moment.
Surtout les droits des femmes.
Oui.
Ils sont toujours les premiers attaqués dans les situations de crise, quelles qu'elles soient, dans les catastrophes naturelles, dans les situations de guerre, dans les situations de grande tension. Oui, c'est toujours les droits des femmes qu'on remet en cause.
Alors on a le sentiment en ce moment d'être un peu dans ce moment de flux et reflux, d'aller-retour. Oui. Dans vos colonnes, dans celles du Monde, c'est l'avocat Patrice Spinozzi qui s'est exprimé, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Et lui, il dénonce une accumulation de ces mesures sécuritaires. Il dit, avec toutes ces lois sécuritaires, nous construisons les outils de notre asservissement de demain. Dans quel état, Annick Cojan, pensez-vous qu'on va retrouver nos libertés à la sortie de cette crise sanitaire?
J'espère qu'on aura sans doute, j'espère qu'on aura envie de les défendre, de les assurer, d'en profiter pleinement.
Parce que là, on est en train de s'habituer à ne plus aller manifester, on est en train de s'habituer à sortir avec une attestation, on est en train de s'habituer à demander la permission à peu près pour tout.
On a renoncé à beaucoup de choses et on a été très docile en général. Et heureusement d'ailleurs, parce que oui, le danger est grand, bien sûr, mais on a consenti à un certain nombre de privations de liberté pour mieux les utiliser, j'espère, après. Voilà, je n'arrive pas à être très inquiète. Alors c'est mon tempérament, je suis plutôt une optimiste de nature, mais j'ai au contraire l'impression que sortie de ce tunnel, et même si on conserve en tête ce qui nous est arrivé, donc sans doute on aura appris quelques précautions sanitaires qui nous seront utiles pour l'avenir. En revanche, le droit de nous rassembler, le droit de manifester, le droit de nous exprimer, le droit de vivre pleinement toutes nos libertés, d'aller et venir, etc., je pense qu'on va au contraire les saisir avec peut-être encore plus de force. Et les maladresses récentes du gouvernement, je crois que ne vont pas assoupir nos concitoyens. Au contraire, j'ai l'impression qu'on aura davantage envie de les revendiquer. J'espère pas avec violence, parce que c'est une vraie préoccupation et que ce serait dommageable. Je suis vraiment toujours inquiète des violences de part et d'autre, parce que j'ai aussi couvert des manifestations qui étaient une brutalité de part et d'autre, je dirais. Je trouve ça toujours terrifiant, il faut le dire aussi. Je n'arrive pas à comprendre ça. Mais je crois que ces débats actuels nous donneront, j'espère, l'envie. Et là, pour le coup, la culture, les différents acteurs de la culture seront nécessaires pour nous questionner sur ce que nous avons vécu et pour, non pas nous agiter, mais en tout cas nous donner envie de remettre en question et clamer, oui, nos idées, nos forces, et revenir à des débats d'idées, des rassemblements, j'espère que dans les théâtres, dans les cinémas, etc., j'espère que les créateurs qui fourmillent d'idées, qui peuvent pas les exprimer actuellement, vont pouvoir le faire. Moi, je crois qu'au contraire, la sortie de ce tunnel sera une explosion, je crois, d'idées, de controverses, en tout cas, de saisie de la parole.
Alors, on espère que l'avenir vous donnera raison. Ne vous résignez jamais, dit Gisèle Halimi. C'est d'ailleurs le titre de l'un de ses livres. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce mot de résignation? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes sentie résignée?
Parfois, sans doute. Et pour revenir au thème préféré de Gisèle, résignée parfois devant... le machisme, la phallocratie ambiante, voilà, quelquefois. Je m'en veux, dans ces cas-là, de pas oser davantage lever la main ou crier, peut-être pas crier, c'est pas mon genre, mais en tout cas de m'indigner plus fortement. Quelquefois, oui, les femmes sont obligées de se résigner temporairement ou de se taire parce qu'elles vont faire peur si elles crient trop fort, si elles existent trop pleinement, elles vont être mises de côté très vite. Elles ont du mal à secouer l'ordre, et c'est vrai que quand Gisèle Halimi dit qu'est-ce que j'attends encore des femmes, moi j'attends la révolution. Alors, elle est culottée de dire ça, mais elle pouvait le dire parce que c'est Gisèle Halimi. Mais c'est vrai que c'est une révolution qu'il faudrait faire quand on regarde le rapport de force entre les hommes et les femmes encore, y compris dans nos sociétés et dans l'ensemble du monde. C'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de gens à dénoncer ces inégalités criantes.
On est aujourd'hui au lendemain de la journée mondiale des violences faites aux femmes, à l'encontre des femmes, et les statistiques sont partout dans le monde, et y compris en France, encore assez terribles.
Mais oui, c'est juste pas de chance de naître femme dans la plupart des pays du monde. Voilà, c'est pas de bol. On a une chance sur deux, et ben si on est petite fille, et ben on est tombé du mauvais côté. Ça veut dire qu'on sera moins nourri dans la plupart des pays, moins nourri. Toute une partie de l'Afrique, de l'Asie, etc., on nourrit moins les petites filles. Moins soignées. Lorsqu'elles sont malades, on fait bien attention, si on a peu de moyens, enfin très attention aux petits garçons, à l'aîné ou aux petits garçons qui suivra, mais en tout cas, pas à la fille. Moins éduquée, évidemment, dans beaucoup d'endroits. Alors, je ne vous parle pas de l'Afghanistan, etc., où évidemment les talibans recommencent à attaquer toutes les écoles qui avaient été créées ces dernières années pour les petites filles et les fermer, ou tuer les professeurs, femmes, bien sûr, etc. Moins éduquées, on pensera très vite au mariage, parce que pour la plupart des filles du monde, le mariage est l'unique horizon, la seule possibilité peut-être, j'allais dire, de s'en sortir, non, même pas, c'est-à-dire de passer de l'autorité d'un père à l'autorité d'un frère ou d'un mari. De toute façon, voilà ce qui est le destin de la plupart des femmes encore aujourd'hui. Ça paraît incroyable. Alors là, je parle de différentes sociétés, mais c'est vrai que dans la nôtre, où c'est quand même évidemment plus égalitaire, petit à petit, les choses ont progressé. On en est encore très très loin. Qui oserait prétendre que qu'il y a une égalité parfaite entre les petites filles et les petits garçons actuellement? C'est pas vrai.
Régression, progression, progression, régression, revient à ce mouvement qu'évoque Gisèle Halimi.
Quand on n'avance pas pour les femmes, compte tenu de retard à rattraper, on régresse. Mais on régresse parce que ce qui était considéré comme des libertés à conquérir et ce qui faisait qu'on croyait qu'on les avait complètement conquises, sont vécues, me semble-t-il, comme des libertés tolérées. Et toute la différence est là. Je pense qu'il y a véritablement un courant idéologique qui se met en place. Ce que les femmes considèrent comme acquis, ces acquis-là sont toujours frappés par une espèce de malédiction, je dirais, de précarité. Ce que les femmes conquièrent, ce que les femmes acquièrent, est considéré comme un peu pris sur l'ennemi, j'allais dire, mais à reprendre aussitôt par l'ennemi. Donc c'est pour ça que je dis, c'est que ne jamais considérer pour les femmes que ce qu'elles ont est définitif.
Voilà, ne jamais penser qu'on est arrivé.
C'est vraiment intéressant, ouais. Comme elle le dit d'ailleurs. Hein. Alors, elle sourit en disant que c'était une guerre et ce qui est pris sur l'ennemi.
Et l'ennemi, ouais.
Oui, parce que justement, elle, c'est important de le souligner quand même, elle avait la conviction intime que ce qui allait profiter aux femmes globalement, finalement, in fine, on va dire, eh bien, profiterait aussi aux hommes. Ça ferait une société meilleure, ça ferait une société plus égalitaire, et les hommes aussi, finalement, y gagneraient. Parce qu'effectivement, ils perdraient leur statut de dominant, mais en même temps, ils seraient autorisés à montrer d'autres qualités, et que effectivement ce terrain d'entente et d'égalité serait propice à d'autres relations, un autre type de relation entre hommes et femmes. Elle n'a jamais considéré précisément les hommes comme des ennemis. Oui, il fallait se battre contre eux souvent pour leur arracher nos droits, mais en fin de compte, elle visait à plus de bonheur dans la société, plus d'harmonie. C'est bien ça l'idée, et que c'est ce combat, parce que c'est vraiment un combat, eh bien, il est à faire avec les hommes. Et il faut les rallier à la cause, d'une certaine façon. Mais ça, c'est très compliqué à faire, et ça passe par beaucoup d'échafaudées et de disputes.
Plus d'harmonie, c'est intéressant aussi cette question des mots. Hein. On évoquait, ou on l'entendait parler des hommes comme des ennemis. Alors c'était une avocate, hein. Elle avait le verbe haut, Gisèle Halimi, avocate de la cause des femmes. Elle vous dit aussi avoir très tôt choisi son camp dans ce livre, hein. Celui des victimes, ce mot de victime. En même temps, on sent qu'elle l'aimait pas trop. Hein.
Elle n'aimait pas qu'on victimise les femmes. Mais quand, petite fille, elle regarde autour d'elle et elle voit des tas d'injustices, elle les voit dans sa famille, déjà, la différence entre les frères et les sœurs. La petite fille avait, vous savez, qu'on a tellement parlé de sa grève de la faim parce qu'elle trouvait que c'était injuste la façon dont on la traitait par rapport à ses frères. Et puis elle voit comment sa mère est oppressée. Dieu sait si elle a aimé son père plus que sa mère, qui ne l'aimait pas. Mais en tout cas, elle voyait comment sa mère était oppressée, était dépendante, était une quémandeuse. Elle se disait, je ne serai jamais une quémandeuse, parce que la maman devait demander de l'argent chaque mois. Évidemment, elle n'a pas le droit de sortir, et on lui accordait tout petit pécule pour l'argent du ménage. Donc ça, jamais, la femme était donc victime. Et puis elle voyait autour d'elle, d'abord ils étaient pauvres, et elle regardait, elle voyait, il y avait les riches qui oppressaient les pauvres. Et puis elle a vu aussi les Arabes, qui étaient les dominés par rapport aux colons. Et très vite, elle s'est mise aussi du côté des indépendantistes. Bien sûr, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et d'acquérir eux-mêmes leur liberté. Donc très vite, les victimes, pour elles, ça voulait dire beaucoup de choses. C'était pas que les femmes, et elles se mettraient du côté des victimes.
Et cette injustice, elle est originelle, de toute façon, elle le raconte, ah oui. Elle vous le raconte aussi. Hein. J'étais toute petite quand on m'a raconté l'histoire de ma naissance et le désespoir de mon père à l'annonce que sa femme venait d'accoucher d'une fille. C'est vraiment une fille, le livre de Camille Laurence, le roman qui est paru à la rentrée. Ah, c'est la même histoire qui a dû arriver dans beaucoup de familles et pas à l'autre bout du monde, hein, en France ou en Tunisie, pour Gisèle Halimi. Oui. Ma révolte, ma soif éperdue de justice, mon refus de l'ordre établi et bien sûr mon féminisme, tout est né de là. Tout est parti de l'enfance et de cette indignation ressentie dès mon plus jeune âge devant la malédiction de naître fille. Comment appeler autrement ce coup du sort qui, en vous attribuant le mauvais genre, vous prive instantanément de liberté et vous assigne un destin ? Alors justement, quand elle vous dit « très tôt, j'ai choisi mon camp, celui des victimes », elle vous dit « attention, pas de n'importe quelle victime, des victimes qui relèvent la tête, qui s'opposent et qui combattent ». Et c'est effectivement à ça qu'elle va travailler tout au long de sa vie, pas simplement de militante féministe, mais plutôt d'avocate. On peut revenir peut-être ensemble sur deux grands procès qui ont marqué son parcours et puis qui ont marqué aussi l'histoire des femmes. On va ouvrir avec, si vous le voulez bien, avec le procès de Bobigny, 1972. On est à la sortie avec la mère de Marie-Claire et Gisèle Halimi.
Si vous aviez apporté un jugement, ce que vous venez de faire avec votre fille, est-ce que vous recommenceriez ?
Bien sûr que je recommencerai. Je suis très heureuse pour moi, mais tout le monde en profitera. Nous continuerons. Pour toutes les femmes.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Vous l'avez senti dans les attendus, maître ?
Je l'ai senti dans les attendus parce que Marie-Claire a déposé et a dit dans quelles conditions tout s'était passé pour elle et dans quelles conditions elle avait décidé son avortement. Les magistrats ont semblé ne pas l'avoir entendue. C'est une des motivations de leur jugement. Ce jugement,
Vers un changement de la loi.
Vers un changement de la loi. C'est un pas irréversible pour deux raisons. D'abord parce que, je vous le dis, il a exprimé le désarroi de tous les juges devant ce problème. C'est clair, les attendus sont contradictoires. Il n'y avait pas, je le répète, de raison de faire des poids et des mesures. Et c'est un pas parce que le procès lui-même, quel qu'était le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible.
Voilà, alors Marie-Claire est une lycéenne de 16 ans quand elle est violée. Elle sera dénoncée à la police par son violeur pour avoir avorté. C'est le procès de l'avortement, hein, le procès de Bobigny, où Gisèle Halimi va lancer en plein tribunal. J'ai avorté, je le dis, messieurs, je suis une avocate qui a transgressé la loi.
Quel culot et quel courage! C'était d'une audace folle de faire ça dans le tribunal. Il a aussi quelquefois, certains lui reprochaient de faire des procès tribunes, des procès médiatiques. Mais oui, bien sûr qu'elle voulait faire un procès médiatique. Elle voulait changer la société. Elle avait choisi ce métier d'avocate pour changer la société, changer le monde en plaidant. Elle avait réfléchi, petite fille, qu'est-ce qu'elle trouvait le monde très mal fait. Hein, on parlait des victimes, elle voyait bien qu'il y avait plein de victimes partout. Alors comment faire? Comment changer le monde? Elle imaginait d'ailleurs, petite fille, drôle, me racontait des. Elle avait dans ses rêves comme ça, comment organiser la société, elle essayait de trouver différents systèmes. Et là, voilà, elle trouvait que ce métier serait peut-être celui qui lui permettrait de plus de faire avancer les choses. Et donc, les mots étaient ses alliés, la soumission, évidemment, sa marque de fabrique, le droit était son instrument. Et elle va se débrouiller pour effectivement, dans ce procès de Bobigny, d'interpeller toute la société française. Et de dire, c'était quand même incroyable, de faire dire à la mère et à la fille d'ailleurs, la fille, oui, j'ai avorté, alors que normalement, on essaie de trouver des circonstances atténuantes, c'est parce que j'ai voulu, etc. Et la mère, oui, je me suis organisée, si je pouvais, je le referais. Ce qui était effectivement, là aussi encore, quelque chose d'incroyablement audacieux. Donc, en appelant différents témoins, en faisant venir à la barre Michel Rocard, Aimé Césaire, Aimé Césaire avait fait une déposition, des philosophes, des Simone de Beauvoir, mais aussi des actrices, des gens de la société civile, des témoins de moralité. Et puis en plus, en s'appuyant, elle avait il se trouvait que c'était un cas extraordinaire parce que c'était un tel cas d'injustice. Et puis les personnes étaient d'une intégrité admirable. On ne pouvait rien leur reprocher à ces femmes qui comparaissaient. Et elle a fait effectivement de ce procès à une tribune pour passer au-dessus de la tête des magistrats et s'adresser à toute la société française.
Et ça va marcher puisque ce procès va ouvrir la voie à la loi autorisant l'avortement en 75.
Oui, elle a grandement facilité le travail de Simone Veil.
Ouais.
deux ans plus tard.
Rompre le silence et le tabou, hein, qui était aussi l'avortement à l'époque. À la fin de cette archive, elle dit, elle a ce mot irréversible, rendre irréversible. En réalité, oui. On le disait depuis le début, les reculs sont toujours possibles.
Oui.
Mais mettre Halimi, à ce moment-là, elle a raison. Elle va porter son combat sur le terrain judiciaire. Parce que quoi? Parce qu'elle pense qu'en obtenant la reconnaissance des juges, non seulement elle en fait une tribune publique, ce procès, mais aussi qu'en obtenant la reconnaissance du juge et donc du droit, elle va pouvoir faire un pas décisif pour la cause des femmes. Elle croit au droit comme arme fatale, en
c'est
fait, de
son instrument. Ouais. Et elle, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'elle reprochait au mouvement actuel, quelquefois. Tu sais, si elle était contente qu'il y ait des frémissements partout dans la société, tu sais, si elle voyait que MeToo prenait de l'ampleur et donc suscitait plein de débats, etc. Mais elle disait, mais il faut utiliser le droit. Une fois qu'on a dit ça... Je suis une victime. D'abord, vous avez raison, elle aimait pas beaucoup ce mot de victime. Une fois qu'on a dit, ça m'est arrivé à moi aussi, cette terrible chose, du viol, de l'agression, etc. On fait quoi? Saisissez les juges, saisissez, utilisez, faites changer la loi, engagez-vous en politique, engagez-vous dans des associations, soyez concrets et pragmatiques. C'était vraiment un bulldozer, Gisèle Halimi. Et donc, c'est vrai que le droit était très important. Et elle avait très peur des dénonciations calomnieuses. Elle avait très peur de la diffamation, ce genre de choses qui peuvent arriver lorsqu'on ne se repose pas sur le droit. C'était vraiment une avocate qui a aussi fait un peu de politique, mais qui était essentiellement une avocate.
Alors, on n'a pas évoqué, mais rapidement, cet autre grand procès emblématique, celui d'Aix-en-Provence en 78, qui restera dans les annales comme le procès du viol, hein, là encore un procès plus que symbolique qui remettait en cause et en question d'autres tabous et cette culture du viol telle qu'elle semblait admise jusqu'ici. Un mot de ce qu'elle a, elle a légué aussi au droit, aux avocats, mais aussi aux féministes, parce que elle disait il faut changer le droit, mais il faut le changer à bon escient, et on revient à ce qu'on vit aussi aujourd'hui, actuellement. Est-ce qu'elle vous a parlé de cette bascule MeToo, de ces nouvelles féministes? Est-ce qu'elle adhérait à leur manière de faire, d'agir?
Écoutez, Gisèle Halimi avait quand même 92 ans, donc elle n'était pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Je me rappelle de passer un après-midi avec elle à regarder avec mon petit téléphone, regarder ce que c'est Twitter et ce que ça veut dire MeToo, hashtag MeToo. Gisèle, alors, elle me disait, vous savez, quand on était à choisir, on était 2000, 3000 personnes. Je lui dis, là, elles sont 20 millions. 20 millions à revendiquer quelque chose. Alors, c'était très important, toutes les notions de sororité, de solidarité des femmes, d'union des femmes. Elle disait, il faut qu'elles se rendent compte de leur force lorsqu'elles sont toutes ensemble. Et MeToo permettait ça. Donc elle adorait qu'il y ait beaucoup de débats dans la société. Mais c'est vrai qu'elle avait une impression de manque. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller plus loin. Et ce côté déclaratif uniquement, ou presque, comment est-ce qu'on peut dire, MeToo peut donner l'impression qu'on avance simplement parce qu'on a dit qu'il nous était arrivé quelque chose et que nous étions nombreuses à le penser. Ça suffisait pas, elle trouvait que c'était bien insuffisant, que les femmes devaient s'engager beaucoup plus loin, devaient s'engager en politique, devaient être présentes absolument partout. Elle s'est battue pour la parité. La parité, évidemment, est arrivée, peut changer les choses. Mais elle voulait qu'on passe à l'action et qu'on n'arrivera jamais à déclencher un grand mouvement si on reste dans le purement déclaratif, ça m'est arrivé. Voilà. Il fallait travailler. Et là encore, effectivement, ça passait par le droit, ça passait par les lois et par l'action.
Quel aura été son dernier combat?
Oh, écoutez, je vais être très prétentieuse si je vous dis que ça va être le livre. Le livre pour elle était très important et je suis contente qu'elle ait eu au moins cette satisfaction avant de partir, parce qu'elle voulait que se passait le flambeau. Elle voulait passer le flambeau aux jeunes. Quand elle dit il faut faire la révolution, oui, continuez, soyez confiants, soyez toujours, soyez vigilantes, ne vous arrêtez pas. Et cette espèce de flambeau, je pense que c'est ça qui est important. Elle dit aux jeunes filles, continuez, travaillez aussi avec les garçons, parce que cette révolution ne peut se faire qu'avec eux. Il faut les rallier au combat, mais n'arrêtez pas.
Faites la révolution, faites votre révolution aussi. Hein.
Oui, ouais. Bien sûr, mais ce mot était très important. Tout le monde devait se sentir concerné. Elle a beaucoup parlé, elle voulait parler dans les écoles. Je l'ai accompagnée une fois parler dans les prisons à Fleury-Mérogis, elle était là. Et donc, effectivement, elle voulait que ça continue. Elle regrettait toujours que les femmes, quelquefois, consentent trop longtemps à leur oppression. Et comme dans tous les systèmes oppressifs, ne peuvent se perpétuer que si les opprimés y consentent. Et donc, ça suffit. Levez-vous, les femmes. Et je pense que, effectivement, les mouvements actuels ne pouvaient quand même que lui faire plaisir.
Emmanuelle Davier, médiatrice de Radio France, nous a rejoint dans ce studio avec Sandrine Trainer, directrice de France Culture. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Olivia.
Une figure du féminisme, hein, Gisèle Halimi.
Une figure du féminisme et ô combien. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire que nous nous adaptons en podcast. Ce sera le mois prochain, la série d'entretiens que fait Annick Cogent depuis longtemps maintenant dans les pages du Monde. Je ne serais pas arrivée là si qui vous a fait rencontrer notamment Gisèle Halimi, et ce sera un podcast avec des dialogues qui sont lus par Judith Henry et Julie Gayet.
Ah oui. Ça me fait très plaisir, c'est génial de faire ça, ouais. Vraiment.
Exemple de collaboration sur le sujet des femmes entre la presse écrite et la radio.
Et alors, toutes les trois, vous ne seriez pas arrivées là si Annick Cogent, vous avez dû vous la poser, la question depuis le temps que vous la posez.
C'est vrai, mais moi, écoutez, c'est très clair ma réponse. Sans cette maman formidable qui était ouverte, joyeuse et qui m'a donné toutes les libertés et m'a montré que l'horizon, effectivement, était très très large. Voilà.
Sandrine Trainer, vous ne seriez pas arrivée là si.
Ouh.
J'en sais rien. Je
compliqué
sais pas.
Compliqué dire une phrase, c'est vertigineux. Hein, comme
ouais,
question.
Ça,
Emmanuel Davier se lance.
Je dirais, alors vraiment au pied levé, sans détermination et surtout la rencontre d'une enseignante de philosophie qui m'a vraiment mis entre les mains toutes les clés qu'il faut pour tracer sa voie.
Alors je répondrai que moi je ne sais pas à quoi je suis arrivée.
Bon, 13h23 sur France Culture. C'est effectivement une affaire de chemin qui nous réunit toutes les quatre aujourd'hui avec les auditeurs et les auditrices de France Culture. Il est l'heure de votre rendez-vous, Emmanuel Davier, avec Sandrine Trainer. Donc, de quoi allez-vous parler aujourd'hui?
Eh bien,
les auditeurs, on vous demande.
Et on va aborder plusieurs sujets. On commence avec cette question d'une auditrice, Sandrine Trainer. Elle nous dit « J'espère que vous allez faire une large place dans vos informations sur la réforme de l'université, qui est une catastrophe pour la qualité de la recherche et de l'enseignement. Les réformes passent à bas bruit derrière les informations sur la pandémie. » Sandrine Trainer, la réforme de l'université a-t-elle fait l'objet d'un traitement éditorial particulier sur votre antenne?
Oui, bien sûr. La réforme de l'université a donné lieu à plusieurs émissions de manière tout à fait pluraliste, je dois dire. Beaucoup d'opinions sur cette loi controversée se sont exprimées à l'antenne, dans les matins de France Culture, dans les matins du samedi, dans la méthode scientifique de Nicolas Martin. Ce qu'on pourrait peut-être proposer à nos auditeurs, c'est de faire les liens, de mettre les liens sur la page
c'est
de votre site.
Non,
il est évident que pour nous, les enjeux de l'université sont de manière générale tout à fait centraux, et que d'ailleurs aujourd'hui se pose une question, et on voyait ça dans les réactions ce matin aux annonces, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que l'université ne puisse pas accueillir d'étudiants avant à minima le mois de février, alors que le reste ouvre. Ça fait quand même des étudiants qui n'ont pas été en présence les uns des autres depuis maintenant pas loin 6 mois bien.
Oui, et ça entraîne
bien
chez eux.
Ça va faire 2 années universitaires. C'est quand même extrêmement préoccupant. Je crois que la communauté universitaire s'en émeut beaucoup et à juste titre.
Absolument, et des auditeurs étudiants d'ailleurs nous écrivent pour traduire cette détresse psychique. Vendredi dernier, dans le contexte de la loi Sécurité globale et à l'initiative du journal Le Monde, la rédaction de France Culture a co-signé un communiqué avec les autres rédactions de Radio France et des rédactions de différents médias nationaux. Ce communiqué rappelle les grands principes d'indépendance de la presse et indique qu'en aucun cas un journaliste ne s'accréditera pour couvrir une manifestation. Pourquoi était-il important, Sandrine Trainer, de signer ce communiqué?
Alors, je vous réponds immédiatement. Je vais faire une chose horrible qu'on déteste faire. Quand vous savez, vous posez une question à un invité qui veut absolument parler, rebondir sur quelque chose qui a été dit 10 minutes avant. Voilà. Mais juste peut-être préciser, Emmanuel, que cette semaine, Tiphaine Rocchini consacre Entendez-vous l'écho, donc à 14h, de 14 à 15h, et évidemment en téléchargement, à la question de la pauvreté. pauvreté et qu'une émission d'une heure est consacrée spécifiquement à la question de la pauvreté en milieu étudiant et aux difficultés que rencontrent les étudiants de manière générale, évidemment pour un certain nombre d'entre eux et aggravée par la crise. Par ailleurs, pardon de cette insiste, je referme la parenthèse.
Non, mais c'est important, je vais vous dire pourquoi c'est important que vous le précisiez, parce qu'effectivement, les auditeurs, de pas simplement France Culture, de Radio France en général, nous demandent de consacrer des émissions et des reportages à cette jeunesse. Et il y a même une mère de famille qui nous a écrit hier soir pour nous dire que c'est une véritable catastrophe silencieuse. Donc merci de cette précision et nous mettrons le lien de l'émission sur le site de la médiatrice. Donc alors, pourquoi avoir co-signé ce communiqué ?
Alors, en l'occurrence, ce communiqué a été signé par les rédactions. J'ai donc interrogé Arnaud Bousquet, notre directeur de la rédaction, pour mettre dans ses propres mots la réponse à votre question. Et voici la réponse, que évidemment j'assume avec lui, ça va sans dire. Dans la préparation de cette proposition de loi dite de sécurité globale, le ministre de l'Intérieur évoquait la probable future nécessité, pour ne pas dire obligation, pour les journalistes couvrant une manifestation, de se faire accréditer auprès des services de l'État. Raison officielle, insiste de Arnaud Bousquet, qui ne m'appartient pas de mettre en doute, c'est pour pouvoir mieux protéger physiquement les journalistes si la manifestation tourne mal. Concrètement, ça veut dire quoi ? S'accréditer, c'est contacter la préfecture et clairement demander la permission de venir couvrir la manifestation. Donc premier problème, une manifestation de rue, ce n'est pas une cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. Tous les médias, aussi nombreux soient-ils, ont le droit d'approcher, de témoigner, d'expliquer ce qui s'y passe. Donc il y a un risque théorique que l'État choisisse de ce qu'il veut montrer, à qui il veut le montrer. Deuxième problème, cette histoire d'accréditation, amène à penser que on vous protège mieux si vous vous êtes déclaré en cas de manifestation houleuse. En gros, ça revient à devoir demander l'autorisation de prendre sa voiture le matin pour avoir droit aux pompiers et à l'hôpital en cas d'accident. Ce n'est donc pas acceptable. Cette tribune co-signée permet de montrer que l'ensemble des rédactions du service public comme du privé, qu'elles penchent plutôt à droite comme le Figaro ou plutôt à gauche comme Libé, a dit non. La limite que nous avons fixée, précisons-le précisons-le grandement à nos auditeurs, garantit aux auditeurs de France Culture une information libre, relatée, expliquée par des journalistes libres qui se déplacent librement sur le théâtre de l'actualité. Et d'ailleurs, notons que le ministère de l'Intérieur est immédiatement revenu sur son projet en invoquant un simple malentendu.
Je voulais qu'on termine en parlant des derniers résultats de Médiamétrie. Hélas, le temps est court, donc je pense qu'on y reviendra parce que le profil de vos auditeurs évolue, Sandrine Trainer. C'est-à-dire que vos auditeurs sont de plus en plus jeunes, hein, il y a une hausse de moins de 25 ans, et votre public se diversifie, mais on y reviendra dans un prochain rendez-vous.
Voilà. Mais c'était bon. On est très heureux et on en dira des choses. C'est évidemment extrêmement intéressant de constater que dans la société d'aujourd'hui, une radio culturelle comme France Culture ne cesse d'augmenter ses auditeurs et ses auditeurs les plus jeunes. Je pense que c'est un sujet dont tout le monde peut se réjouir.
Je dis merci à la réalisation Thomas Beau, Jacques Hézubert aujourd'hui et à toute l'équipe de la Grande Table qui nous a accompagnés, à Auriane Delacroix avec Jean Bulot pour la programmation. Chargé de programme, c'est Henri Leblanc. Préparation et site internet, Laura Dutèche-Pérez avec Madeleine Martineux et Anouk Delfino. Merci beaucoup à vous, Annick Cogent. Merci Emmanuel Davier et Sandrine Trainer. Très bel après-midi à tous sur France Culture.